Voici le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Et bonjour à tous. Au lendemain du sommet Ambition Climat, cette alerte lancée par les syndicats et Union Forestière de Haute-Savoie, inquiets de la santé de leurs forêts. Les propriétaires privés de forêts doivent prendre soin de leurs arbres malmenés par le changement climatique. Des centaines de milliers de marins coincés sur leurs bateaux à cause du Covid, l'ONU vient de reconnaître leur profession comme essentielle afin qu'ils puissent être relevés par de nouvelles équipes et donc rentrer chez eux. C'est aujourd'hui, Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont fixé cette date pour savoir si un accord était possible entre l'Europe et le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit.
Les invités de cette matinale, à partir de 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Muriel Barbery pour son roman Une rose seule, publié chez Actes Sud.
Et puis à 8h20, notre invité André Comte-Sponville pour son dictionnaire amoureux de Montaigne.
France Inter. Mon beau sapin, roi des forêts, les syndicats Union Forestière de Haute-Savoie face au changement climatique. La santé des épicéas notamment est de plus en plus fragilisée par le changement climatique. D'où cet appel à tous les propriétaires privés pour qu'ils assurent, entretiennent leurs parcelles en cas de sinistre. En Haute-Savoie, la forêt couvre 40% du territoire, 71% appartiennent à des privés, une forêt sous-exploitée et donc en croissance constante et souvent le bois mort reste en place. Or, la forêt subit de plus en plus d'agressions, Marie-Ameline.
C'est un cercle vicieux. Moins une forêt est entretenue, plus elle devient fragile et exposée aux parasites, aux tempêtes et aux grosses chutes de neige de plus en plus fréquentes depuis une quinzaine d'années. Et comme la majorité des propriétaires ne sont pas assurés, que de surcroît depuis 3 ans, l'État n'indemnise plus les forêts non assurées. Quand survient un sinistre, les 10 propriétaires ne veulent ou ne peuvent pas assumer les coûts très élevés d'évacuation du bois mort, de coupe des arbres abîmés et de replantation. Or, pour la santé, la robustesse et l'avenir des forêts et de la filière bois, cet entretien est indispensable, milite François Charvin, le président du syndicat des sylviculteurs de Haute-Savoie.
La forêt la plus vulnérable aux tempêtes, c'est la forêt d'épicéa en particulier. On a une seule essence et là, quand le vent s'engouffre dans ces parcelles forestières, là, c'est une véritable hécatombe. On constate qu'à partir du moment où on a une forêt mélangée, on a une forêt aérée, une forêt cultivée en tous les cas, où on a fait des travaux forestiers, où on a fait des éclaircies, où on a une bien meilleure résistance aux tempêtes.
D'où l'appel aujourd'hui de France Silva et de l'Union des forestiers privés de Haute-Savoie aux propriétaires à s'assurer pour pouvoir protéger leurs arbres, garants de la biodiversité, de la qualité de l'air, des paysages et de la production de bois.
Marie-Ameline de France Bleu Pays de Savoie. Quel sera le Noël des personnes âgées dans les EHPAD ? Un nouveau protocole a été envoyé aux directions des établissements hier soir. Objectif, assouplir les recommandations, permettre des visites plus conviviales pour les fêtes de fin d'année. Les sorties seront ainsi facilitées à titre exceptionnel. Les proches invités à se faire dépister avant l'événement familial et à leur retour dans les EHPAD. Les résidents seront eux aussi testés et soumis à une quarantaine de 7 jours. Pour les personnes âgées qui, elles, ne peuvent pas se déplacer, les visites en chambre seront autorisées pour les proches, même s'ils sont positifs au Covid. Mais dans ce cas, il leur faudra porter un équipement spécial. On en reparle avec Daniel Messager dans le journal de 8h. En France, si vous prévoyez de prendre l'avion ou le bateau pour la Corse, entre le 19 décembre et le 8 janvier, les tests de dépistage seront obligatoires et devront être réalisés au moins 72 heures avant l'embarquement. Les résultats de ces tests ne seront pas directement demandés par les différentes compagnies aériennes ou maritimes, mais si les personnes sont contrôlées, elles devront pouvoir présenter un justificatif du labo ou de la pharmacie prouvant qu'ils sont négatifs.
Et eux vont passer sans doute les fêtes loin de chez eux à cause du Covid.
Ils sont au moins 400 000 marins dans le monde qui seraient coincés sur leurs porte-containers et autres navires marchands. Jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas tous circuler et passer les frontières. Certains armateurs les gardaient à bord, faute de pouvoir faire tourner l'équipage. L'ONU vient donc d'adopter une résolution qui le reconnaît comme travailleurs essentiels, au même titre que les travailleurs de santé. C'est un espoir pour ceux coincés à bord et ceux qui leur viennent en aide. Mathilde Dehimi.
Le grand port maritime de La Réunion est le seul de la région à ne pas avoir fermé ses portes aux marins. Et c'est depuis juillet, au large, un long défilé de porte-containers qui attendent de pouvoir changer d'équipage. Alain Jetant dirige le centre d'accueil des marins.
Depuis l'aéroport, il y a un corridor, on les amène jusqu'à la gare maritime, on les transporte jusqu'à la vedette, qui va au large terre pour qu'ils montent à bord des bateaux.
Un corridor sanitaire organisé dans tous les ports de France, car il y a urgence à sortir des marins qui ont largement dépassé leur temps maximum.
Nous avons pu rencontrer des marins qui ont fait parfois 14 mois en mer. Contre les marins, donc à peu près 8, parfois 9 mois, vous imaginez.
Seuls 15 pays, dont la France, ont reconnu après le premier confinement les marins comme des travailleurs essentiels. Cette reconnaissance par l'ONU va désormais permettre de bloquer les navires récalcitrants, espère Corinne Archambault, inspectrice de l'intersyndicale mondiale ITF.
Dans beaucoup de pays, on a décidé d'être ferme, c'est-à-dire que par le principe du contrôle par l'état du port, les autorités qui reçoivent la visite de navires étrangers vont pouvoir imposer des restrictions.
L'intersyndicale qui pointe des risques accrus d'accidents et de pollution en mer si les marins épuisés ne sont pas rapidement relevés.
Les Mathilde Dehimi, un sujet retrouvé sur franceinter.fr. La campagne de vaccination de masse s'apprête à démarrer aux États-Unis, pays le plus durement touché au monde, avec 298 000 morts. Le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 arrivera d'ici demain dans les hôpitaux et autres sites aux États-Unis, prêt à être injecté dans les bras de millions d'Américains. L'Allemagne, elle, redoute que le virus ne devienne incontrôlable. Elle s'apprête à prendre des mesures drastiques et à refermer ses commerces. Les restaurants, les bars, les théâtres, cinémas, musées et équipements sportifs sont déjà fermés en Allemagne depuis 6 semaines. C'est aujourd'hui, Ursula von der Leyen et Boris Johnson ont fixé cette date pour savoir si un accord était possible entre l'Europe et le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. La Grande-Bretagne sortira du marché unique le 31 décembre, ça c'est certain, mais dans quelles conditions? C'est la question que l'on se pose, notamment dans le Kent. Dans cette région d'Angleterre se trouvent les principaux ports de la Manche, et c'est là que circulent des milliers de poids lourds chaque jour entre le Royaume-Uni et le continent. Reportage dans le Kent de notre envoyé spécial Richard Place.
Sur cette autoroute M20, les camions arrivent de toute l'Europe, remplis de marchandises importées, absolument indispensables à l'économie britannique. David Foley en sait quelque chose. Le directeur général de la Chambre de commerce du district de Douvres espère bien que ça va durer avec ou sans accord.
Même si c'est réglé et qu'il y a un deal,
nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge.
Ce dont vous pouvez être sûr, c'est que restera la même. Quoi que fassent les politiciens, le Kent sera toujours la partie de Grande-Bretagne la plus proche de la France. Je pense que vous trouverez ici une majorité de Britanniques qui veulent continuer ces échanges commerciaux fructueux qui profitent énormément aux deux parties.
Avec ou sans accord, il y aura des formalités douanières à partir du 1er janvier. Le Kent s'y prépare pour éviter des blocages monstres sur les routes. Si l'Europe et le Royaume-Uni ne trouvent pas de terrain d'entente, il y aura aussi des taxes à l'import et à l'export. Une nouveauté qui pourrait cette fois coûter cher aux entreprises britanniques et qui se répercuterait forcément sur les consommateurs. Dans le Kent, Richard Place, France Inter.
Voilà à présent un petit monde enchanté au cœur du Puy de Dôme.
Depuis près de 20 ans, à chaque Noël, Evelyne et Laurent Brun illuminent et décorent leur maison au martre de verre. Tout y est fait à la main, y compris les nombreuses figures et statues installées dans le jardin. Cela représente de longs mois de bricolage avant les fêtes pour donner vie à un spectacle féerique, de quoi régaler petits et grands. C'est presque la cohue devant la maison de la rue du Longue. Théophile Vareille, reportage.
Dessert qui court après des lutins, des personnages de dessins animés et des guirlandes, surtout beaucoup de guirlandes. À la nuit tombée, c'est un monde enchanté qui s'illumine et prend vie ici, pour le plus grand plaisir de Léo, 3 ans,
oui,
qui s'intéresse surtout à une personne en particulier.
Où est-ce qu'il est le Père Noël?
Là.
Tu peux me le montrer?
Il est là, tu as vu, je le vois moi, à la fenêtre. Il fait bonjour et il chute.
Sa grand-mère Brigitte est avec lui.
Qu'est-ce qu'il veut qu'il t'amène, le Père Noël? Dis-lui, il t'entend.
Une voiture.
Et puis quoi encore?
Des jouets.
Partout, des enfants juchés dans les bras ou sur les épaules de leurs parents, le regard émerveillé.
Très jolies les décorations.
Qu'est-ce que tu préfères?
Là, le château, avec tout le monde, tous les gens de Disney. La Reine des Neiges, Mickey, Donald.
Là-bas, il y a la Pat' Patrouille, il y a les Mignons aussi.
Qu'est-ce que vous en pensez, les décorations?
Elle est belle.
Ses grands sourires et ses yeux ébahis, c'est la meilleure récompense pour Evelyne et Laurent Brun.
C'est magique, c'est magique. Ça nous change les idées et c'est vraiment magique.
Mais en guise de remerciement, il est aussi possible de laisser une petite pièce dans leur boîte à dons solidaire. Chaque année, ce sont environ 3000 euros qui sont entièrement reversés à une association venant en aide aux enfants hospitalisés à Clermont.
Théophile Vareille.
C'était le journal de Laurence Thomas.